France Culture.
18h précisément sur France Culture, le journal Julie Pacaud. Bonsoir Julie.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. La fumée blanche se fait attendre ce soir à Genève où les Européens ont mis sur la table leur contre-proposition au plan américain pour l'Ukraine lors des négociations entre Ukrainiens et Américains. Un plan en 28 points que l'Europe tente à tout prix d'amender tant il est favorable à la Russie. Qui l'a donc rédigé? Comment a-t-il été élaboré? La polémique monte aux États-Unis alors qu'un sénateur républicain soutient que ce plan est en réalité une proposition de la Russie. Malgré le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, l'armée israélienne a frappé la banlieue de Beyrouth cet après-midi, affirmant vouloir viser le chef d'état-major du mouvement pro-iranien. Et puis, quand des parents d'élèves et enseignants s'organisent pour mettre les élèves à l'abri, cela se passe à Strasbourg, où face à la chute des températures, des familles et leurs enfants dorment désormais dans une école. Tout faire pour amender le plan américain pour l'Ukraine. Un plan qui reprend de nombreuses exigences de la Russie, on va y revenir, et face auxquelles les Européens sont pris de court. Allemagne, France et Royaume-Uni ont donc envoyé en urgence leurs conseillers à Genève aujourd'hui pour participer au pourparlers entre Ukrainiens et Américains et peser aux côtés de Volodymyr Zelensky afin de faire entendre leurs alternatives. Jérémy Lanche.
Les conseillers à la sécurité nationale français, britannique et allemand sont venus à Genève pour tenter d'amender le plan de Trump. Une contre-proposition serait sur la table, c'est ce qu'a dit le chancelier allemand Friedrich Merz, qui se dit dans le même temps peu optimiste sur les chances d'obtenir un accord d'ici jeudi, date de l'ultimatum fixé à Volodymyr Zelensky pour donner sa réponse. Les discussions en tout cas se poursuivent à Genève. Après avoir rencontré les Européens, la délégation ukrainienne s'entretient avec les envoyés américains. Tout ça se fait à huis clos et alors que les principaux acteurs s'expriment en même temps sur les réseaux sociaux. Côté face, Volodymyr Zelensky qui estime que le plan américain pourrait inclure plusieurs éléments essentiels pour les intérêts nationaux de l'Ukraine. Côté pile, Donald Trump qui a publié un message incendiaire accusant les Ukrainiens d'ingratitude au regard de ses efforts pour mettre fin à la guerre.
Jérémy Lange, correspondant à Genève. Mais pour les 27, il s'agit aussi de se replacer au centre du processus malgré les tentatives américaines de les marginaliser. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a ainsi rappelé aujourd'hui sur les réseaux sociaux les lignes rouges pour l'Europe.
L'Ukraine a été au cœur de nombreuses discussions ces derniers jours. Un plan de paix crédible et soutenable doit premièrement et avant tout arrêter les meurtres et la guerre pour ne pas risquer de semer les graines d'un conflit futur. Nous sommes tombés d'accord sur les principaux éléments nécessaires pour une paix durable et juste et la souveraineté de l'Ukraine. Laissez-moi vous éclairer sur trois d'entre eux. Premièrement, les frontières ne peuvent pas être modifiées par la force. Deuxièmement, l'Ukraine, en tant que nation souveraine, ne peut voir ses forces armées limitées, ce qui rendrait le pays vulnérable à une future attaque et ainsi saper la sécurité européenne. Troisièmement, la priorité des nations européennes est de sécuriser la paix pour l'Ukraine. Elle doit être totalement respectée. L'Ukraine doit avoir la liberté et le droit souverain de choisir sa propre destinée.
Ursula von der Leyen, opposée, tout comme Kiev, à ce que l'Ukraine cède des territoires, limite la taille de son armée, doivent renoncer à intégrer l'OTAN. Autant de points inscrits, noir sur blanc, dans ce plan américain, présenté désormais comme un cadre pour des négociations par l'administration américaine. Mais qui a donc écrit ce plan si favorable à la Russie? Eh bien, la question taraude autant les dirigeants européens que les sénateurs américains. Agathe Mahuet.
Ce sont trois élus du Sénat américain, un républicain, une démocrate et un indépendant qui ont semé le doute ces dernières heures en rapportant un échange avec le chef de la diplomatie Marco Rubio, selon lequel ce plan initial en 28 points ne correspond pas à la position américaine, mais représente une initiative de Moscou. Un texte comme un simple point de départ à des discussions incluant une liste de souhaits russes pour les conditions d'une paix en Ukraine et qui n'avait pas vocation à être divulgué, mais qui a fuité. Des propos démentis dans la foulée par le secrétaire d'État américain qui est aujourd'hui présent en Suisse, Marco Rubio affirme au contraire que la proposition de paix a bien été rédigée par les États-Unis, sans convaincre pourtant certains alliés de l'Ukraine comme le Polonais Donald Tusk qui se dit prêt à travailler sur ce plan malgré quelques réserves. Avant de commencer notre travail, nuance le dirigeant, il serait bon de savoir avec certitude qui est l'auteur de ce plan et où il a été élaboré.
La correspondance d'Agathe Mahuet aux États-Unis pour France Culture. Au moins 5 morts et 28 blessés dans la banlieue sud de Beyrouth, au Liban, où l'armée israélienne dit avoir visé le chef d'état-major du Hezbollah en menant une frappe sur un immeuble malgré un cessez-le-feu avec le mouvement pro-iranien. Une attaque ordonnée par le premier ministre israélien. Alors si on ignore si ce haut cadre du Hezbollah a été tué, le président libanais Joseph Aoun exhorte la communauté internationale à intervenir avec force pour arrêter ces attaques israéliennes. Car près d'un an après le cessez-le-feu, Arthur Saradin, les violations se multiplient à travers le Liban.
Dans le ciel de Beyrouth, le bruit des drones israéliens quelques heures après la frappe qui a touché la banlieue sud. L'armée israélienne dit avoir ciblé Haitham Tabtabaï, déjà visé par 3 tentatives d'assassinat en un an, et accusé d'être le chef d'état-major du Hezbollah. L'organisation, elle, a seulement confirmé qu'un de ses responsables avait été visé, sans donner plus de détails. Depuis plusieurs mois, Washington appelait Israël à épargner la capitale libanaise, des pressions qui semblent s'atténuer alors que le processus de désarmement du Hezbollah promis par l'État libanais patine. L'organisation, qui n'a toujours pas répliqué aux violations répétées du cessez-le-feu par l'armée israélienne, a annoncé dans un communiqué étudier sa réponse. Une riposte qui, si elle a lieu, pourrait engager une escalade inédite.
Correspondance d'Arthur Saradin à Beyrouth. Alors face aux conflits mondiaux et à la menace russe, le service militaire devrait faire son retour en France. Le gouvernement y travaille, confirme Alice Ruffaut, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. Mais un service militaire sur la base du volontariat, précise-t-elle chez nos confrères de France Info. Emmanuel Macron devrait en détailler les contours dans les prochains jours. Le retour à 5 jours pleins d'écoles par semaine dès l'élémentaire, des cours démarrant plus tard le matin au collège et au lycée, ou encore des enseignements pratiques et des activités culturelles et sportives l'après-midi. Autant de propositions adoptées par la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant aujourd'hui. Après 6 mois de travaux, les 133 citoyens tirés au sort préconisent un réaménagement des apprentissages pour qu'ils soient plus adaptés au rythme biologique des enfants, mais sans réduire les périodes de vacances scolaires. Un rapport salué par la FCPE, la Fédération des parents d'élèves, et son vice-président national, Grégoire Ancel.
Si on se place vraiment du point de vue de l'enfant et de son intérêt pour l'accès aux apprentissages, la réduction des inégalités et la capacité à être attentif, concentré et participatif, c'est effectivement un horaire qui correspond le mieux, là encore, aux intérêts de l'enfant et donc à condition de s'organiser en termes de transport. Ça va demander un certain mouvement de la société, mais c'est tout à fait souhaitable et envisageable, effectivement. Si on veut vraiment que l'école soit facteur d'égalité, permette aux enfants d'apprendre dans les meilleures conditions possibles, il faut qu'on ait collectivement le souci de réorganiser les choses. Ça va être pour nous un des enjeux forts des élections municipales, mais aussi des questions à centrer dans la campagne des présidentielles à venir, parce qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas et on voit bien qu'on a une école qui est totalement décalée par rapport aux besoins des enfants et donc c'est totalement préjudiciable à leur développement et à leurs apprentissages.
Mais comment continuer d'aller à l'école lorsque l'on vit dans la rue ? C'est le cas pour près de 3000 enfants en France. Face à cette situation et des températures glaciales ce week-end, jusqu'à moins 8 degrés en Alsace hier, des enseignants et parents d'élèves de l'école de Schlutfeld à Strasbourg ont décidé de mettre à l'abri leurs élèves ainsi que leurs parents dans l'établissement scolaire. Deux familles occupent ainsi l'école depuis mercredi. Émilie Pou.
Dans la salle des maîtres, parents et enseignants rangent de la nourriture dans les placards pour le repas du soir et le petit déjeuner. À l'étage, deux salles de classe ont été aménagées pour les familles, explique Émilie, l'une des mamans mobilisées.
C'est des matelas posés par terre, donc un petit lit pour un enfant de 3 ans et deux enfants de 5 et 7 ans et un lit double pour les parents. Et il y a du chauffage. Il fait chaud.
Les familles arrivent, les membres du collectif sortent des coloriages pour occuper les enfants. Leurs parents se posent enfin autour de la table, épuisés par des mois de galère allogés sous des tentes ou dans leur voiture.
Il est très très stressé, très très problème.
Très froid là en ce moment.
Très froid. Et les enfants...
C'est compliqué.
Oui, compliqué, catastrophe.
Face à cette détresse, les membres du collectif demandent qu'une solution pérenne soit trouvée pour ces familles. En attendant, Malika et les autres resteront sur place tous les soirs en se relayant.
On est très solidaires entre nous, on se soutient, on a un groupe WhatsApp. Il y a un élan de solidarité qui se fait, notamment pour les vêtements, pour les matelas, pour les couchages, pour la nourriture. C'est lamentable qu'il y ait encore des familles, des enfants à la rue. Et ça devient urgent.
10 enfants scolarisés dans l'école n'ont pas de toit actuellement.
Reportage d'Émilie Pou, ici Alsace. Rentrée en France mardi après avoir été graciée le 12 novembre dernier par l'Algérie, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal s'exprimera pour la première fois depuis sa libération ce soir à 20h sur France 2. La météo demain matin avec des pluies attendues de la Charente-Maritime aux frontières de l'Est ainsi que sur le Pays Basque. Le temps restera couvert ailleurs, excepté sur la Bretagne où quelques éclaircies referont leur apparition. Les températures affichent 5 à 10 degrés en moyenne. La minimale sera pour Gap avec 3 degrés et la maximale pour Biarritz avec 12 degrés. C'est la fin de ce journal préparé avec Caroline Beneteau et Jean-Guilain Meige à la technique.